Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Sur Radio Saint-Ferréol 94.2, l'émission qui compte. Avec Sophie Bizet au micro, Pierre Mallet à la technique. Des histoires pour tous en direct, le quatrième mardi du mois à 11h, retransmis le quatrième dimanche du mois à 13h. Chers auditeurs de Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Pour mon émission de février, j'avais le choix entre deux thèmes, les crêpes ou l'amour. J'ai choisi l'amour. Seulement, voilà, c'est un thème trop vaste, l'amour. Tous les contes parlent d'amour. Alors j'ai décidé de me consacrer aux mésaventures amoureuses. Mais d'abord, qui est ce Valentin qu'on fête le 14 février ? Eh bien, l'histoire dit qu'il était évêque à Terni, en Italie, au IIIe siècle après Jésus-Christ. Et à cette époque, c'était le règne de Claude, l'empereur Claude, dit Claude le Cruel. Valentin était évêque et lui, son truc, c'était les mariages. Il mariait à tour de bras, à une époque où en plus le christianisme n'était pas vraiment bien vu. Donc Valentin a été emprisonné. Et il se trouve que la fille de son geôlier est tombée amoureuse du bel évêque. Cette jeune fille était aveugle. Alors on dit souvent l'amour rend aveugle. Eh bien elle, ça a été le contraire, puisque Valentin a fait un miracle. Il lui a permis de retrouver la vue. La jeune fille s'est convertie au christianisme avec toute sa famille. Ouais, ça n'a pas sauvé le pauvre Valentin, qui a été décapité quelque temps plus tard, vers 270. Ce n'est que plusieurs siècles après que sa fête a commencé à être célébrée le 14 février et qu'il est devenu le patron des amoureux. Mais sans plus tarder davantage, une première histoire d'amour qui est une histoire qui nous vient de Hongrie. C'est l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune fille qui s'appellent Anna et Marco. Marco et Anna viennent juste de se marier. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont amoureux, ils sont heureux. Enfin, oui, mais il se trouve que leur village a été ravagé par la guerre et tout le monde vit dans une extrême pauvreté. Les soldats qui sont passés par le village ont tué toutes les poules, tous les moutons pour se nourrir. Et sans moutons, eh bien, il n'y a pas de viande, pas de lait, pas de fromage et pas non plus de laine. Et pour survivre aux rigueurs de l'hiver, les gens s'enveloppent dans tout ce qu'ils ont comme vieux vêtements, ce qui donne de bizarres silhouettes toutes rondes du haut, avec des jambes et des bras tout maigres qui dépassent comme des crayons. Anna et Marco arrivent à survivre en vendant les quelques légumes qu'ils cultivent dans leur petit carré de jardin. Et pourtant, même s'ils sont très pauvres, chacun des deux a un trésor. Le trésor d'Anna, ce sont ses longs cheveux. Ses longs cheveux brillants qui sont restés beaux malgré toutes les privations et le manque de nourriture. Lorsqu'elle défait le bout de tissu qui les retient, il s'écoule jusqu'au sol et l'enveloppe d'un manteau plus beau que n'importe quel manteau de fourrure. Quant à Marco, lui, son trésor, c'est une montre de gousset que son grand-père lui a donnée. Et il l'attache dans sa poche avec un bout de ficelle et il la sort fièrement pour donner l'heure lorsqu'on lui demande. Et ils vont comme ça, quinquas, et l'hiver est là, et puis arrive le jour de Noël. Et Anna est toute seule chez elle, elle est en train de coiffer ses grands cheveux, elle regarde la neige qui tombe par la fenêtre. Elle a fouillé partout parce qu'elle voudrait faire un cadeau à son Marco. C'est le premier Noël après la guerre. Elle voudrait lui offrir quelque chose de spécial, quelque chose qui lui prouve tout l'amour qu'elle a pour lui. Seulement, voilà, elle a eu beau fouiller toutes ses poches, elle a eu beau fouiller tous les tiroirs de la maison, elle n'a pas trouvé grand-chose. Elle a juste trouvé quelques pièces. Elle regarde la neige, elle se demande comment faire. Et puis tout d'un coup, elle sait. Ça y est, elle a trouvé. Vite, elle met son vieux manteau, elle enfile ses gants troués Elle sort dans la rue, là, elle longe les maisons dont là, beaucoup sont en ruine, les escaliers qui ne mènent nulle part. Les boutiques dans la rue principale, il y en a quelques-unes qui sont éclairées avec des vitrines aux trois quarts vides. Et elle va jusqu'au fond d'une impasse, elle monte la volée de marche, elle frappe à la porte sans reprendre son souffle. De l'intérieur, une voix lui dit d'entrer. Elle se retrouve dans une pièce sombre, très froide, glacée. Et dans un coin de la pièce, comme une araignée tapie dans sa toile, il y a une vieille femme. Une vieille femme qui a des bizarres cheveux orange qui se dressent sur sa tête. Autour de son cou, un vison mité. Ah, la vieille, quand elle voit Anna, un grand sourire éclaire son visage. Elle lui dit « Ah, ça y est, tu t'es enfin décidée !» Et elle s'approche d'elle, elle passe ses doigts crochus dans les longs cheveux brillants. Oh, elle dit « Oui, seulement, t'aurais dû te décider avant. » La vieille ouvre un tiroir, elle montre à Anna les quelques billets qu'il y a là. Avant la guerre, cette vieille-là, elle était très riche parce qu'elle vendait des perruques à des gens fortunés. Maintenant, elle manque de matières premières. Hey, si tu t'étais décidée avant, j'aurais pu te donner plus. Anna regarde les billets, elle dit « Bon, ça ira comme ça ». Elle s'assied sur la chaise, la vieille prend des grands ciseaux et clac, clac, clac. Elle coupe les grandes mèches qui tombent sur le sol. Elle coupe aussi court qu'elle peut. Puis dès qu'elle a fini, elle ramasse les mèches comme un écureuil qui trouverait un trésor. Elle met les billets dans la main d'Anna, elle la pousse dehors comme si elle avait envie d'être seule, seule avec ce trésor-là. Anna, elle se sent toute nue sur ses cheveux. Elle rabat son fichu sur sa tête. Mais dans sa main, elle a les billets. Elle descend l'escalier et dans la rue principale, elle s'arrête devant une boutique. Dans la vitrine, il y a quelques anneaux et quelques chaînes. Elle rentre, elle montre ses billets et elle demande au marchand une chaîne de montre. Elle lui sort une belle chaîne plaquée argent. Anna est toute contente, elle prend la chaîne, elle donne ses billets et puis elle va vite chez elle. Là, Marco n'est pas encore rentré, elle ranime le feu. Elle attend avec impatience son retour. Mais déjà, elle se demande qu'est-ce qu'il va penser. Est-ce qu'il va toujours la trouver belle avec ses cheveux courts? Et puis elle entend ses pas, il secoue ses chaussures sur le seuil, il ouvre la porte et il est devant elle. Elle la regarde, il devient tout pâle. Ah, regarde, joyeux Noël mon amour. Anna lui tend la chaîne dans sa main. Elle lui devient encore plus pâle et murmure « Ah, tu as vendu tes cheveux. Tu as vendu tes cheveux pour m'acheter une chaîne de montre. Mais moi j'ai vendu la montre pour t'acheter des peignes pour tes cheveux. » Et Marco sort de sa poche deux peignes en ivoire, joliment sculptées. Et ils se retrouvent l'un en face de l'autre. Chacun a dans sa main le cadeau devenu inutile. Et se regardent. Et puis, ils tendent la main et chacun prend le cadeau que l'autre a choisi pour lui. Joyeux Noël, mon amour. Et ce jour-là, Anna et Marco n'ont plus rien. Ils sont les plus pauvres du monde. Et pourtant, ils sont aussi les plus riches, puisqu'ils sont riches de cet amour qui vaut plus que tout l'or du monde.
Tiens, qu'est-ce que tu fais là? C'est moi, c'est Nathalie. Quoi, tu me reconnais pas? Mais si, on était ensemble au lycée, c'est vrai, j'ai changé, j'ai des enfants, un mari. Bah quoi, t'as l'air surpris, j'étais pas destiné à une vie bien rangée. J'étais perdu, mon mari m'a trouvé, j'étais de celles qui disent jamais non. Les maris, couche-toi là, dont on oublie le nom. J'étais pas la jolie, moi j'étais sa copine, celle qu'on voit à peine, qu'on appelle machine. J'avais 2 ans de plus, peut-être 2 ans de trop, et j'aimais les garçons, peut-être un peu trop. Bien sûr, vous aviez eu des dizaines de conquêtes que personne n'avait vues, toujours pendant les fêtes pour beaucoup d'entre vous. Je suis la première fois de celle qui compte, mais pas tant que ça. Je n'étais pas de celles à qui l'on fait la cour. Moi j'étais de celles qui sont déjà d'accord. Vous veniez chez moi, mais dès le lendemain, vous refusiez en public de me tenir la main. Et quand vous m'embrassiez à l'abri des regards, je savais pourquoi, pour pas qu'on puisse nous voir. Alors je fermais les yeux à m'en fendre les paupières, pendant que pour guetter, vous les gardiez ouverts. Je me répétais, faut pas que je m'attache. Vous pensiez, il faut pas que ça sache. Mais une fois dans mes bras, vos murmures essoufflés, c'est à moi, rien qu'à moi, qu'ils étaient destinés. Enlacés contre vous, à respirer vos cheveux, je le sais, je l'affirme, vous m'aimiez un peu. Certaines tombent amoureuses, c'est pur, ça les élève. Moi je tombais amoureuse, comme on tombe d'une chaise. Et gonflé de l'avoir fait, vous donniez conférence, une souris qu'on dissèque, mon corps pour la science. Je nourrissais vos blagues de caserne, que vous pensiez viril, petits hommes des cavernes. D'avoir pour moi un seul mot de tendresse, vous apparaissait comme la pire des faiblesses. Vous les fier à bras, vous parliez en expert, oubliant dans mes bras, vous faisiez moins les fiers. Et les autres filles, perfides, petites saintes, m'auraient tondu les cheveux à une autre époque. Celles qui ont l'habitude qu'on les cajole, ignorent la solitude que rien ne console. Vous veniez chez moi, mais dès le lendemain, vous refusiez en public de me tenir la main.
Bédabar, je suis de celle. Alors, notre deuxième histoire est rapportée par Henri Gougaud, qui l'attribue au chroniqueur Pierre de l'Estoile, ou de l'Étoile. Cette histoire se passe dans une petite ville, une de ces petites villes accrochées au flanc d'une colline. Une ville d'escaliers, de ruelles pentues et d'échoppes étroites. Dans une de ces ruelles, il y a la boutique d'un cordonnier. Et c'est fou ce qu'on use comme chaussures dans cette ville, surtout les hommes. À tel point que le cordonnier a mis devant son échoppe dans la rue un banc sur lequel il y a toujours pas mal de clients assis qui attendent leur tour, surtout des hommes. Parce qu'il faut dire que dans la boutique, derrière le comptoir, trône la cordonnière. La cordonnière, une belle brune, avec une peau de lait à un grain de beauté au coin de la bouche, une chevelure noire qui cascade sur ses épaules et un décolleté généreux. Oh, mais la dame est vertueuse, elle ne manque jamais la messe du dimanche. Elle s'y rend avec une mantille de dentelle qui cache son joli minois. Et si par hasard, quelqu'un s'avise de lui faire une cour un peu trop empressée ou de la suivre d'un peu trop près, les cris de la cordonnière attirent tout le voisinage et le galant n'a plus qu'à s'enfuir honteux et confus. Alors, les hommes se contentent d'admirer la belle cordonnière depuis le banc, tandis que leur mari répare les chaussures. Et parmi les admirateurs de la dame, il y a un jeune gars de la ville qui s'appelle Tonio. Et voilà qu'un jour, Tonio reçoit la visite de son cousin Napolitain. Un homme à la moustache fière et au verbe haut. Et en lui faisant visiter la ville, bien sûr, Tonio lui en montre ce qui en fait le plus bel ornement, la cordonnière. Et lorsque le Napolitain voit la cordonnière, il en reste bouche bée. Ah, et là, ça, les bras ballants, finalement, c'est Tonio qui entraîne son cousin complètement éberlué. À les jours suivants, le Napolitain en perd le boire et le manger. Il ne dort plus. Il passe toute la nuit à arpenter la chambre que son cousin lui a attribuée dans sa maison. Tonio fait tout ce qu'il peut pour le distraire, mais rien à faire. L'autre ne pense qu'à la belle. Il est incapable de faire quoi que ce soit. Et en désespoir de cause, au bout de 10 jours de ce régime, Tonio attrape son cousin par le bras et l'entraîne tout grelottant d'amour jusqu'à une ruelle sombre. Et là, il frappe à la porte et la porte s'ouvre en grinçant comme par magie. Et face à eux, un vieil homme en habit noir avec des cheveux blancs comme neige et un corbeau sur l'épaule les regarde en souriant. Sur les étagères autour de lui, il y a des fioles remplies de poudre et de mixtures diverses et aussi de très vieux livres. Tonio explique la raison de leur venue. Le vieux lui demande de sortir et de le laisser seul avec son cousin. Une fois seul avec le Napolitain, le magicien prend une des fioles sur les étagères, il écrit une formule sur un morceau de papier et il dit au jeune homme « Écoute-moi bien. Si tu veux rendre cette femme amoureuse de toi, tu dois d'abord te procurer 3 gouttes de son lait, du lait de son sein. Ensuite, tu mélangeras ce lait avec cette poudre en prononçant la formule que je t'ai écrite sur ce papier. Et ensuite, tu n'auras plus qu'à attendre, la demoiselle te courra aux trousses et ne te quittera plus où que tu ailles. Mais attention! Tout cela doit rester secret, tu ne dois dire cette formule à personne. Le Napolitain, tout revigoré par ces sulfureuses paroles, a redressé ses moustaches, donné une pièce d'or au magicien et il est allé retrouver son cousin qui l'attendait anxieux sur les marches de l'escalier. Voyant que son cousin avait retrouvé la santé, Tonio est allé vaquer à ses affaires qui étaient fort négligées depuis 10 jours. Tandis que le cousin, lui, allait rôder autour de la boutique du cordonnier. Il s'est éloigné un petit peu et puis il a avisé un enfant qui était là. Le marché a été vite conclu. Il a donné la fiole et le gamin, il s'est caché dans une embrasure de porte. Et de là, il pouvait voir la boutique. Il a vu le gamin rentrer. Il l'a vu réciter la leçon qu'il lui avait apprise. Que sa maman était malade, qu'elle avait mal à l'œil et que pour faire un remède, elle avait besoin de 3 gouttes du lait de la cordonnière. Elle a vu aussi que la jeune femme devenait toute rouge, qu'elle avait l'air très fâchée, qu'elle a levé la main pour envoyer une gifle au gamin. Mais le Napolitain a vu aussi que l'enfant montrait les 3 écus d'or qu'il lui avait donnés, les 3 écus qu'il proposait en échange de ces 3 gouttes de lait. Il a vu les yeux du cordonnier se mettre à briller. Il l'a vu prendre doucement sa femme par la taille et arrêter le bras qui s'apprêtait à donner la gifle. 3 écus d'or, ce n'était pas rien. C'était à considérer. La belle cordonnière a pris la fiole. Elle a écouté ce que son mari lui disait et puis elle a glissé derrière le rideau qui séparait la boutique de leur maison. L'enfant restait là, à danser d'un pied sur l'autre. Le cordonnier avait repris son travail. Le Napolitain retenait son souffle. Et la femme est revenue. Dans sa main, elle avait le flacon rempli de lait. Elle l'a donné à l'enfant. En échange, elle a pris les pièces. Et le gamin s'est dépêché de sortir de la boutique. Il a retrouvé le Napolitain qui lui a donné les piécettes convenues et a serré le flacon sur son cœur. Et il est rentré chez son cousin. Là, il s'est allongé sur le lit. Il a mélangé le lait avec la poudre. Il a récité la formule. Il a bu d'un trait et il a attendu. Il a attendu en faisant des rêves roses. Il imaginait la belle cordonnière qui venait vers lui. Il imaginait qu'elle faisait glisser les épaules de sa robe. Il imaginait qu'il caressait sa belle poitrine. Et tout d'un coup, il a été tiré de ses rêves par un tintamarre épouvantable. C'était la chèvre. La chèvre des cordonniers qui, soudain, était devenue comme folle. Elle avait arraché le piquet où elle était, de l'enclos où elle était. Elle avait défoncé la barrière et elle se courait de toute la vitesse de ses pattes vers celui qu'elle aimait désespérément. À grands coups de corne, elle s'est débarrassée de tous ceux qui voulaient s'interposer entre elle et son amour. Elle s'est ruée dans la chambre. Elle s'est couchée sur le Napolitain qui ne comprenait rien à ce qui se passait. Et elle s'est mise à baiser son visage, sa bouche, ses moustaches, ses yeux à grands coups de langue râpeuse. Et l'homme avait beau crier, essayer de se dégager, rien n'y faisait. La chèvre se collait contre lui, prise de fureur. Et les gens sont arrivés en entendant ces cris. Ils ont essayé de tirer la chèvre. Ils ont eu beau s'y mettre à 2, à 3, à 10, rien à faire. Finalement, c'est un bon coup de gourdin sur le crâne de la chèvre qui a pu libérer le Napolitain. Il s'est enfui à toutes jambes sous les quolibets de la foule sans demander son reste. Et on ne l'a plus jamais revu. Sans doute, il a couru jusqu'à Naples. Quant au cordonnier et à la cordonnière, eh bien, les 3 écus d'or qu'ils avaient gagnés les a consolés, sans doute suffisamment, de la perte de leur chèvre. Et voilà comment cette histoire se termine. Alors, eh bien, pour terminer cette émission, encore une histoire d'amour, un peu... Oh, je ne dirais pas tragique, mais un peu curieuse, vous allez voir. C'est une histoire qui vient du Japon. Il y avait une fois un vieux, très vieux bûcheron qui s'appelait Yoshida. Et sa femme, très vieille aussi, qui s'appelait Fumi. Ils se connaissaient à peine quand il y a... Bien, bien longtemps de cela, il y a au moins 60 ans de cela, leur famille les avait mariés. Mariage arrangé, ouais, mais mariage heureux. Fumi et Yoshida s'étaient aimés. Ensemble, ils avaient connu de grandes joies, comme la naissance de leur fils. De grandes peines aussi, quand ce fils, qui s'était fait pêcheur, s'était noyé un jour de tempête. Et ensemble, ils avaient trouvé la consolation dans leur amour réciproque. Chacun avait entouré l'autre d'affection et de tendresse. Les années avaient passé et maintenant, ils étaient comme 2 vieilles tortues, 2 vénérables tortues. Dans l'île où ils vivaient depuis toujours, on s'était habitué à les voir marcher à petits pas. Yoshida... tout ridé, tout sec, et puis à ses côtés, Fumi, toute courbée. Ils allaient jusqu'au temple par les allées ombragées de grands pins et d'érables. Ils contemplaient les reflets de la mer et les bateaux, les minuscules voiles carrées des bateaux de pêche. Ils rentraient chez eux le cœur en paix. Pourtant, depuis quelque temps, chacun avait dans le secret de son cœur une grande inquiétude. Yoshida se disait même, si je viens à mourir avant Fumi, comment est-ce que ma femme arrivera à se débrouiller sans moi? Et de son côté, Fumi se disait, si je meurs la première, mais que deviendra Yoshida? Comment est-ce qu'il pourra se débrouiller? Et ce jour-là, Yoshida est parti se promener tout seul. Il voulait réfléchir. Il marchait, il connaissait tous les arbres, lui qui avait été bûcheron, il connaissait bien son île. Il a fait une promenade plus longue que ce qu'il faisait d'habitude. Et il a marché, pas vite, mais 2 bonnes heures. Et tout d'un coup, en face de lui, il y avait un érable splendide aux feuilles couleur rouge et or. Un érable qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais vu. Puis il a entendu un bruit d'eau, le murmure d'une source. Il s'est approché dans cette direction et là, il a vu l'eau cristalline qui cascadait sur des vasques de pierre. Et il s'est baissé, il a pris l'eau dans ses mains et il a bu. Cette eau était fraîche, délicieuse. Il a senti quelque chose se passer dans son corps, son dos s'est redressé. Il a arrêté de trembler et ses mains n'étaient plus les mains d'un vieillard. En regardant le reflet dans l'eau, elle a vu un jeune homme aux cheveux noirs, aux yeux brillants, au visage rond. Il avait retrouvé sa jeunesse. L'eau était magique. Yoshida était fou de joie. Il est rentré chez lui aussitôt, à grands pas. Ah, il se disait, mais comme ce sera bien, demain... Bon, ce soir, c'est trop tard, mais demain, Fumi viendra. Elle boira, elle aussi, à la source. Et nous serons de nouveau jeunes, comme avant. Nous pourrons vivre, retrouver notre amour et avec la fougue de la jeunesse et puis avec aussi la sagesse de tout ce que nous avons vécu. Oh, quelle belle vie nous allons avoir. La vieille Fumi, lorsqu'elle a vu rentrer ce beau jeune homme, elle a cru que c'était un fantôme. Yoshida l'a tout de suite rassuré, il lui a raconté ce qui s'était passé. Et elle aussi, maintenant, elle pleurait de joie. Elle se disait que le lendemain, dès que le jour serait levé, elle irait elle aussi boire à la source. Elle a guetté, elle n'a pas dormi de la nuit. Et puis elle regardait Yoshida à ses côtés. Elle n'en croyait pas ses yeux. Dès que l'aube s'est amorcée à soupçon de rose, elle s'est levée et, à petits pas, elle a pris le chemin de la source. Yoshida gardait la maison. Lui aussi était très impatient de voir sa jeune femme revenir. Bon, il savait qu'elle en avait au moins pour 2 heures à marcher avec son petit pas de vieille femme jusqu'à la source. 2 heures ont passé, 3 heures. Fumi n'était toujours pas revenue. Yoshida s'est dit, mais peut-être que l'érable a disparu. Il lui avait bien expliqué le chemin. Ou peut-être que Fumi s'est trompée, ou qu'elle n'a pas eu la force de marcher jusque-là. Peut-être que la source n'existe plus, que pendant la nuit, elle s'est évanouie. Yoshida n'en pouvait plus d'attendre. Il a fermé sa porte, il a couru sur le chemin. Il a vu l'érable. L'érable était toujours là. Il a entendu le bruit de l'eau. Et puis, par-dessus le bruit de l'eau, il a entendu comme une plainte. On aurait dit le cri d'un animal. Il a marché là, dans les herbes hautes, à côté des vasques de pierre. Et il y avait un bébé. Une petite fille qui lui tendait les bras. Elle s'est baissée vers elle, il a plongé son regard dans les yeux de l'enfant. Quels yeux étranges! C'étaient des yeux qui contenaient toute la sagesse d'une longue vie. Alors Yoshida a compris, c'était Fumi. Fumi qui avait bu une trop grande quantité d'eau. Et qui était devenu un bébé. Avec un soupir, Yoshida a attaché l'enfant sur son dos comme les parents japonais portent leurs enfants. Et tout mélancolique, il est retourné chez lui. Avec cet enfant qu'il allait devoir protéger et aimer comme une fille, alors que c'était la compagne de toute sa vie. Mais qu'est-ce qu'elle raconte en direct sur Radio Saféréol 94.2, le 4e mardi du mois à 11h. Retransmis le dimanche suivant à 13h et bien sûr réécoutable sur le site radiosaintfé.com.